Good morning, everybody.
Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes à la réunion ALAC avec le conseil d'administration et nous sommes heureux d'être ici présents avec notre conseil d'administration. Nous avons le comité exécutif ALAC qui s'appelle l'équipe de leadership maintenant. Donc j'ai à côté de moi Carlton Samuel, Tijani Benjema, Ivan. Et il y a des questions qui ont été fournies au conseil d'administration. Donc nous allons passer en revue ces différentes questions. Je viens d'avoir une discussion avec Steve et je pense que nous allons commencer par le service à la clientèle. Alors, un petit mot d'introduction. Steve Crocker au micro. Comme toujours, je suis très heureux d'être ici présent. Nous avons maintenant l'opportunité, du point de vue du conseil d'administration, d'entrer en lien avec vous. Au cours des années, nous sommes passés des cocktails plutôt informels à ce format actuel, avec un but très spécifique, parce que nous avons ressenti le besoin de rentrer dans le vif du sujet et nous pensons y être arrivés. En tout cas, nous pensons que c'était une bonne décision, en tout cas en termes de dialogue. S'il y a des personnes qui ont des soucis relatifs à la formalité, au format, de toute façon, c'est comme ça qu'on va travailler et n'hésitez pas à rentrer dans le vif du sujet. Olivier Crépin-Lebonlon. Premier sujet, donc, le service à la clientèle. Donc, l'ICANN CEO a dit que le client d'ICANN est le client et l'utilisateur. Mais certaines personnes pourront dire que le service à la clientèle est en phase de descente plutôt que d'amélioration. Il y a un certain nombre d'obstacles en termes de conformité. Alors, j'ajoute quand même que les questions ont pour but d'être provocantes. Alors, est-ce que le conseil d'administration est d'accord avec le point de vue que nous avons en termes de service à la clientèle et quelles sont les étapes à prendre en compte pour démontrer que l'ICANN considère que les utilisateurs finaux sont réellement les clients principaux? Et donc, je vais demander à Alan Greenberg de répondre à cette question et de nous donner un exemple relatif au PIC DRP. Donc, Alan Greenberg, sur l'étiquette, il est marqué micro. Maintenant, c'est difficile de comprendre sur quoi il faut appuyer. Alors, lorsque le PIC DRP est arrivé à un certain niveau, j'étais très heureux parce que ICANN a pris le commentaire qui lui avait été fait et plutôt que d'effectuer des changements majeurs au processus, a complètement remodelé le système. Il y a un certain nombre de choses qui ont été effectuées et qui ont bien fonctionné. Un des premiers signes de changement en termes de développement de politique a été radical et a été basé sur les commentaires. Donc ça, c'est une avancée dans le bon sens. Par contre, de mon point de vue, il y a une chose qui a été oubliée. C'est que vous avez oublié les deux premières lettres de PIC, donc intérêt public, PI, intérêt public. Il y avait encore une exigence de démontrer qu'il y avait un risque pour un PIC DRP. Et donc, cela élimine les gouvernements, les organisations de consommateurs, les parties privées qui pensent qu'il y a des infractions majeures au PIC, mais qui ne peuvent pas démontrer qu'il y a eu un impact sur un dommage. Et donc, il faut que ceci soit solutionné. Nous comprenons tout à fait qu'éliminer les frais, puisque l'on donne l'autorisation de plainte sans dommage, cela, bien sûr, ouvre la porte aux plaintes frivoles et nous comprenons tout à fait qu'il faut s'occuper de ce problème, mais il doit y avoir un moyen en cas d'infraction au PIC DRP, à l'encontre de l'intérêt public, si on ne peut pas démontrer qu'il y a également eu dommage, il faut quand même que l'on puisse mener ceci à l'attention d'ICANN. Steve Crockett. Alors, je vais parler pour moi. Ce n'est pas un domaine dans lequel je suis à jour. Je n'ai pas une compréhension directe de tout ce qui est en jeu dans ce domaine. Il y a d'autres membres du conseil d'administration qui suivent ceci peut-être de manière plus proche, plus étroite. Monsieur Dispin, peut-être ? Merci. Bonjour. Donc, Chris Dispin au micro. Je vais parler de certains points en ce qui est de l'élimination des gouvernements dans ce cadre. Il y a quelque chose qui a été fait pour permettre, pour ouvrir la possibilité à une organisation. Je crois qu'on a parlé des organisations de consommateurs. On peut donc faire une plainte, présenter une plainte sur la base des personnes qui ont été dommagées, mais je crois qu'il y a un désaccord à la base. À mon avis, et je pense que c'est également l'avis du personnel et certains membres du conseil d'administration, il n'est pas possible d'avoir un processus dans lequel où on présente une plainte sans qu'il y ait de raison. Il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait un dommage. Si on peut trouver une méthodologie, si ALAC peut trouver une méthodologie qui fonctionne très bien, mais ces pics ont été mis en place pour s'occuper de problèmes bien spécifiques en termes de domaine et de TLD, et ils ont été mis en place pour ceux qui souffraient d'un dommage et pour obtenir un remède, une solution. Donc, je comprends tout à fait votre concept d'avoir des plaignants, pour ainsi dire, qui soient représentatifs. Mais bon, il faut prendre ceci en considération. Merci, dit Steve Crockett. Olivier Crépin, nous avons d'abord Alan, ensuite Bertrand de la Chapelle, en deuxième, qui vont prendre le micro. Merci. Dit Alan Greenberg, c'est très bien du point de vue du consommateur de les impliquer. Maintenant, un des aspects du PIC DRP, c'est un petit détail d'ailleurs à un certain niveau, il y a le besoin de négocier avec l'opérateur pour savoir si on peut se comprendre. Certaines des plaintes ne sont pas des choses qui, à notre avis, auront besoin d'être négociées. Si on pointe du doigt une erreur, par exemple, si l'opérateur de registre dit nous allons uniquement autoriser les sites de professionnels certifiés dans certains domaines, et il y a des exemples évidents où ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on ne devrait pas avoir besoin de négocier ou de montrer le dommage pour démontrer qu'ils ne sont pas fidèles au DRP. Et donc, je crois que par rapport au dernier commentaire qui a été fait, pour nous, il serait très bien de pouvoir discuter avec les gens qui élaborent ceci pour leur expliquer quelles sont les raisons pour lesquels on ne peut pas le faire, plutôt que d'envoyer des documents comme cela. Merci, Alan. Olivier Crépin, au micro. Donc, j'aimerais simplement dire, dit Chris Despin, que le concept de parler à la personne dont on parle, c'est tout à fait naturel. Il semble naturel que l'on fasse ceci. Imaginez-vous des circonstances dans lesquelles on essaie de résoudre des problèmes où on ne peut pas le faire. Même chose du point de vue du sens commun, dit Steve Crockett. Je comprends, mais la première étape, c'est de dire à la personne qu'on n'est pas content et que si la personne vous dit ben non, peu importe, bon, mais au moins vous avez communiqué avec elle. Merci Steve, dit Olivier Crépin. Bertrand de la Chapelle, s'il vous plaît. Bertrand de la Chapelle, au micro. Je crois qu'on est dans une situation un petit peu typique où en fait on parle de deux choses différentes. En termes de règlement de litige, déjà, on présuppose qu'il y a un litige. Et en ce sens, je crois que il ne faut pas ouvrir la porte à au fait qu'il n'y ait pas de dommages directs. Mais je pense qu'on parle d'autre chose. Comment est-ce que on aligne les incitations? Comment est-ce qu'on on facilite la surveillance du pic? Et donc, quels sont les mécanismes dont on parle en termes de collecte d'informations par rapport au respect? Et donc, j'aimerais faire référence à ce que Betsy Novak mentionnait hier. Parfois, changer la méthode de commentaire ou la façon dont on pose les questions, c'est vraiment changer l'approche. Et donc, on pourrait organiser la facilitation de la collecte des informations par l'équipe ICANN. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, mais cela veut également dire que le personnel ICANN sera le référentiel pour toutes les plaintes. Et en plus, cela n'est pas aligné avec ce que Fadi a expliqué par rapport au processus de conformité qui part à la base du fait que les gens veulent pouvoir se plaindre. Donc, il faut vraiment explorer les mécanismes de collecte des informations pour qu'ils soient vraiment dirigés vers les opérateurs de registre avec à la base l'hypothèse qu'ils souhaitent être en conformité, en tout cas si on parle comme dans le cadre de ce qu'Alan mentionnait. Il y a un petit peu un bruit de fond en parallèle également. Maintenant, bâtir un système qui équivaut à ce que les autres plateformes ont en termes de drapeau rouge, d'alerte, un moyen qui permette aux gens de signaler aux organisations, eh bien, ceci évoluerait de manière naturelle pour garantir une surveillance de respect des pics, et à ce moment-là, les gens utiliseraient constamment ce canal. Mais donc, il y a deux choses. Il y a un mécanisme qui ouvre grand la porte, et puis un mécanisme qui permet d'améliorer le flux d'informations. Merci, Bertrand. Ensuite, nous avons Ivan Lebovitch, dit Olivier Crépon. Ivan Lebovitch au micro. Merci. J'aimerais faire un commentaire sur ce qu'a dit Chris et sur ce qu'a dit Bertrand. Si on ouvre grand la porte, à ce moment-là, vous avez un problème. Comment peut-on démontrer le dommage? Si ce dommage n'est pas démontré de manière financière, si c'est simplement un grand groupe de personnes qui sont impactées et qui, en fait, ne peuvent pas réellement prouver qu'il y ait un dommage financier, il faut le reconsidérer. Est-ce que ça fait vraiment partie de l'intérêt public? De l'engagement à l'intérêt public. Et je crois que ce qu'Alan disait, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait un dommage qui soit, par exemple, concurrentiel, donc spécifique. Ça, c'est bon. Maintenant, l'impact sur l'intérêt public, comment peut-on le démontrer, le démontrer? Donc, il nous faut une manière alternative. Nous avons parlé d'ALAC comme par exemple, vous avez 500 plaintes individuelles, mais ces personnes ne peuvent pas démontrer qu'il y a un dommage financier, mais qui sont en fait insultées par la manière dont un pic a été interprété par un opérateur de registre, alors qu'il n'était pas clair au début lorsque leur application est passée. Donc, si vous avez par exemple 1, 2, 3, voilà la plainte, non. Mais si vous avez des centaines, des milliers de plaintes sur la façon dont opère un opérateur de registre, eh bien, ça, c'est une question de service à la clientèle. Qu'est-ce qu'on fait avec nos utilisateurs finaux? On entend sans cesse qu'il y aura un bouton sur le site web. Bon, très bien, mais qu'est-ce qui se passe après? Si l'étape suivante, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, permet de démontrer un dommage financier, bon, très bien, mais vous éliminez quand même tout un tas de personnes. Et donc, la question, c'est ça, c'est le cœur de la question, c'est ça. le service à la clientèle, si vous fonctionnez comme une entreprise, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour votre soutien, votre aide à la clientèle, les utilisateurs finaux? Comment vous assurez-vous que la confiance que vous cherchez à gagner dans le monde entier sera réellement suivie, sera respectée avec ces pics? Et d'ailleurs, cette question va au-delà des pics dans d'autres domaines d'ICANN. Donc je ne voulais pas réellement me concentrer sur les pics, mais vraiment de donner un exemple en termes de service à la clientèle. Merci, Evan. Oli, est-ce que vous souhaitez en dire davantage là-dessus? Donc, dit Olivier Crépin-Leblond. Donc, nous avons une file. Donc, nous allons commencer par Ray. Merci. Donc, Ray Plazac, au micro. L'acoustique est vraiment mauvaise ici, dans toutes les salles. Je ne comprends pas bien le fil de la conversation parce que d'un côté, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, il y a un écho, mais bon, c'est un petit peu mieux qu'hier quand même. Alors d'un côté, nous avons la question posée, donc celle des utilisateurs finaux, c'est-à-dire par exemple la grand-mère de Monsieur X. La source de revenus pour ICANN, comme Sébastien l'a dit, c'est donc la grand-mère en question. Ce n'est pas l'opérateur de registre, ce n'est pas le bureau d'enregistrement. C'est, à mon avis, ce qui est en train de se perdre dans la conversation que nous avons là. Et il faut vraiment se préoccuper du pont viable entre ce point-là et un système de plainte du client. À mon avis, c'est ça la conversation. Lorsqu'on commence à parler des opérateurs de registre, le bureau d'enregistrement, etc., de comportement, de comment s'occuper des bureaux d'enregistrement, il y a un contrat, la question de la conformité. Mais ce que je n'entends pas ici, c'est ce souci de savoir comment un utilisateur final peut être satisfait ou voir sa plainte satisfaite. C'est très bien d'avoir cette conversation sur les pics, etc. Mais moi, j'aimerais bien entendre une discussion relative au cœur du problème, c'est-à-dire comment est-ce que ma grand-mère, si elle était encore en vie, pouvait trouver réponse à un service qui ne l'a pas satisfaite. Olivier au micro. Merci, Ray. Donc, la file va être premier venu, premier servi. Nous avons une grande file, donc nous allons commencer par Koei. Koei au micro. Oui, je partage votre opinion là-dessus. Et je me souviens qu'à une époque, lors des réunions d'ICANN, j'avais déjà parlé de ce problème. Et de mon point de vue, il y a un système de service à la clientèle qui ne fonctionne pas très bien. Mais je crois qu'il nous faut résoudre ce problème de manière coordonnée du point de vue d'ICANN, du point de vue des opérateurs et des bureaux d'enregistrement. Et les revendeurs n'ont pas de contrat. Cela crée énormément de problèmes. Les revendeurs sont le lien direct avec les titulaires. Donc, il y a vraiment un problème là-dessus. On ne peut pas le contrôler. Et autre problème, il y a également les CCTLD. Il faut bien comprendre que les bureaux d'enregistrement au sein des CCTLD, ils n'ont pas de contrat avec ICANN. Donc, nous avons là le problème dans son ensemble. Donc, pour réellement résoudre cette question, et d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné, je crois que c'était au Caire lors d'une des réunions passées, je partage votre préoccupation. Les utilisateurs finaux, les pertes financières, très bien, je suis d'accord, mais Je crois que c'est quelque chose qui non seulement doit passer par le conseil d'administration, mais il faut parler au CCNSO, au GNSO, il nous faut parler au gouvernement pour savoir comment prévenir ce genre de problème. Alors, si ICANN ne peut rien faire, bon, je n'en sais rien, je pense que ce n'est pas le cas, j'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment la question du service à la clientèle en général dans tout le secteur. Merci, dit Olivier Crépin-Leblon. Ray Plazac va répondre. Donc, Ray Plazac, merci. Donc, ce dont il vient de parler, les CCTLD, cela me rappelle un point. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se préoccupe pas de la satisfaction des clients au sein des bureaux d'enregistrement régionaux? Ils ont des dizaines de milliers de clients. Et donc, on entend tout un tas de conversations, ici en particulier, focalisées sur le CCNSO. Il y a les deux tiers, pardon, le GNSO. Il y a deux tiers de l'organisation qui ne sont pas le GNSO. Donc, il faut discerner s'il existe un problème entre les clients des différents bureaux d'enregistrement, opérateurs de registre. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui peut être appliqué à l'inverse. Il y a un problème plus grand. Donc, parlons de tous les utilisateurs finaux qui existent dans la communauté ICANN. Merci, Ray, dit Olivier. Nous avons une réunion avec le CCNSO. ICANN a une réunion avec le CCNSO. Et donc, ce sera une question à soulever à ce moment-là.
Fadi voulait dire quelque chose et ensuite nous retournerons vers la file d'attente au micro. Fadi Shehade, bonjour à tout le monde. Est-ce que je pourrais proposer quelque chose parce que nous n'allons pas résoudre le problème ici? Je propose que nous formons un groupe de travail qui inclurait toutes les parties prenantes intéressées par cette discussion et que ce groupe se mette à travailler aussitôt que possible pour présenter des résultats, aussitôt que Singapour, par exemple. En premier, une définition des rôles et des responsabilités dans le DNSSEC, parce que cela n'est pas clair. Les opérateurs et les bureaux, qui est le client de qui, tout cela est encore très ouvert. Et j'ai fait déjà des commentaires, certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Il est temps de se rassembler. Alak l'a déjà demandé pour définir qui est notre client. Est-ce que c'est ma grand-mère? Est-ce que c'est le titulaire de nom de domaine? Est-ce que c'est le futur titulaire? Nous devons définir cela et nous mettre d'accord. Qui va servir qui? Les gens ont besoin d'être satisfaits. Nous devons nous assurer que ce soit un secteur qui soit un bon secteur, qui livre une certaine valeur et des services, et que les gens ne soient pas frustrés. À Cannes, par exemple, ne pourrait pas être vu d'une façon d'une organisation qui va résoudre tous les problèmes des utilisateurs sur la planète. Mais nous devons avoir un mécanisme en place pour que les gens ne soient pas frustrés, les gens qui touchent le DNS. Il faut qu'on soit d'accord entre les acteurs qui jouent quel rôle. Je suggère que nous ne faisions pas ici, mais je suggère encore que notre équipe mette en place un groupe de travail avec votre aide, avec l'aide du GNSO, avec l'aide d'autres acteurs pour essayer de définir les rôles, les responsabilités et représenter cela clairement devant la communauté. Olivier Crépin-Leblon, je ferme les questions sur le sujet, mais QA, qui est déjà dans la queue, va parler. QA, oui, je suis d'accord. Nous devons, comme Fadi le dit, nous devons faire un groupe. Moi, je veux bien en faire partie. Je dois mentionner, il y a rien de lié au DNSSEC. Ce qui se passe, je vais vous le dire, beaucoup de personnes, par exemple les revendeurs, ils pré-enregistrent un nom de domaine et ils piratent la personne et ils disent ah, vous voulez racheter à un prix plus élevé. C'est le problème de l'utilisateur, pour l'utilisateur. Ça n'a rien à voir avec le DNSSEC. Mais je dois clarifier cela. Olivier, merci Koué. Holy Rush, si je voulais, je voudrais revenir à la question originale, la question du départ au niveau du PIC. Et je suis d'accord avec Bertrand et Evan, il y a deux parties dans cette question. La question du dommage, les problèmes de résolution de litiges. Il y a des nouveaux GTLD qui vont servir le public ou pas. Il y avait un débat sur les métriques. Quelles étaient les métriques que nous voulions? Les relations entre les nouveaux GTLD, les nouveaux opérateurs de registre GTLD, et quels sont leurs noms et quels sont les services offerts. L'autre, cela causait de la confusion au niveau du consommateur. Ce sont des métriques que nous devons capturer. Et pour ce que ça fait, à quel effet, et que cela n'a posé pas de dommages au niveau légal, juridique. Est-ce que le public est servi, l'intérêt du public est servi, ou est-ce que le public est confus? Il faut trouver une façon de mesurer le fait qu'il y a des nouveaux GTLD qui peuvent causer de la détresse et des confusions, sans faire du mal, sans nécessairement qu'il y ait un sens de dommage juridique. Alain Greenberg, oui, merci. Je voulais juste clarifier que quand j'ai fait le commentaire en disant que nous n'avions pas à négocier, c'était en général le commentaire, et c'est dans la déclaration que nous avons soumise au public, au commentaire public d'ailleurs. Dans les domaines où ICANN, dans son triage initial, a déterminé qu'il y a un problème. En fait, dans les faits, personne ne devrait pas avoir à négocier, puisque c'est vérifiable au démarrage du problème. C'est ça dont je parle. On ne devrait pas avoir à négocier. Ils disent qu'ils allaient faire telle ou telle chose. Il faut regarder sur le site ICANN. On voit très bien que c'est clair qu'ils ne vont pas faire telle ou telle chose. Ce que l'on cherche en général, c'est le terme qu'utilise Fadi, c'est crowdsourcing. Le crowdsource. Que cela vienne de la base, de la masse, du public, disons. Notre position, c'est que cela ne va pas être très honorifique. Nous n'attendons pas une enquête de 3 jours pour chaque plainte. Mais nous devons reconnaître quand il y a un espèce de modèle, un patron, un modèle. Donc, Olivier Crépin-Leblon, Alain a parlé qu'il y avait... Ce qu'il a dit, ça m'a un peu fait trembler le concept de que quelqu'un prend une décision, on dit que quelque chose était en fait des faits, juste à regarder un site de web. C'est une recette pour un désastre. Je voudrais donc reconnaître ce qui a été dit. Je vous dirais de faire très attention. Il y a une ligne très très mince entre ce dont vous avez parlé et le lobbying. Vous ne voulez pas que nous ayons en place un système qui fasse du lobbying. Par exemple, beaucoup de personnes qui envoient des choses pour que les choses se fassent. Il doit y avoir des mesures qui soient mises en place. Il n'y en a pas. Cela deviendra un exercice qui sera abusé. Et je voudrais vraiment supporter la décision de FADIC pour que nous mettions en place un groupe pour discuter cela. Olivier Crépin-Leblon, il y a 3 personnes qui vont prendre la parole. Evan en premier. Chris Nkoué, je suis en accord avec ce que vous avez dit. Nous ne sommes pas là pour parler de la mise en place des détails. Sur le concept de cela, nous pouvons parler sur anti-gaming, anti-lobbying et toutes les mesures qui peuvent être construites contre ce système. Ce qui doit être fait, les principes qui doivent mettre en place sont importants. Oui. Ce n'est pas seulement à propos de PIC DRP, c'est par exemple de revenir à votre grand-mère. Elle ne sait pas que les .com, .co ont des réglementations complètement différentes, même si elles sont vendues au public de la même façon. C'est des petites vérités, mauvaises vérités en fait. Les utilisateurs ne sont pas au courant. Ils vont dans le système et se disent « Oh, c'est au-delà de ce que l'on connaît ». quelqu'un quelque part, il doit y avoir un point de contact qui dise les gens doivent obtenir l'opération, les informations. Et les utilisateurs finaux doivent connaître la distinction entre un point CO et un point com et gouverner. Est-ce que ICANN a au moins une responsabilité, au moins partielle, dans le fait des informations qu'il donne au public? Le public doit savoir, doit faire la différence. Nous devons en discuter. Comme Coe disait, je suis complètement d'accord avec lui d'ailleurs, ce ne c'est pas juste à propos des PIC, c'est une approche vers l'utilisateur final. Je suis complètement d'accord que nous mettions en place un groupe de travail et j'attends beaucoup de la conversation qui va s'y produire. Olivier Crépin-Leblond, oui. Prochaine personne, Chérine Chalabi, je voulais donner mon soutien par rapport à ce qui a été dit, surtout par Alan. Je crois que l'utilisateur final est notre... vous voyez, l'utilisateur final, pour moi, c'est une question de service client, pas de PIC. Nous devons vraiment développer presque une solution totale pour tous les utilisateurs finaux et pas des PIC pour un groupe individuel. Mais je viendrai au groupe de travail. C'est quelque chose auquel nous vont répondre. C'est pas une question dont nous vont parler ici. J'ai entendu tous les commentaires. Je pense que c'est quelque chose de très sérieux. Nous devons agir là-dessus et faire quelque chose à ce sujet. Olivier Crépin-Leblond. Oui, merci Charine. Et maintenant, Sébastien Bachelet. Sébastien Bachelet, merci beaucoup. Je voudrais faire une suggestion. Pourquoi, en tant qu'at-large ou à l'AC, n'appelez pas pour un groupe de travail cross-communautaire sur le sujet? Pourquoi nous vous attendez pour que le staff, que le personnel, que Shadi, que le board fasse quelque chose? Vous pouvez appeler pour un groupe de travail. Si vous avez besoin de Fadi, vous avez besoin de l'aide du board, vous l'obtiendrez. Allez, faites, si vous avez des problèmes, nous vous aiderons. Je pense que c'est la meilleure manière d'utiliser le processus du haut en bas, le processus ascendant. Si vous devez organiser un groupe de travail cette semaine, faites-le. Et puis nous vous aiderons. Merci. Olivier, merci Sébastien. Et nous avons donc pris en considération votre point et nous allons en parler. La deuxième question que nous avons est liée bien sûr à cette question de groupe de travail cross-communautaire. Mais ce n'est pas forcément à propos des mises en place et des politiques. Nous avons pris cela en exemple de travail qui devrait être fait sur cette base. Cette question sur la mise en place des politiques, c'est une question ICANN en général, mais ça a été adressé par le groupe de travail GNSO. Malgré que ce groupe est ouvert à tout le monde, tous les gens qui veulent y participer, le GNSO a préparé le cadre de référence pour cette question. Et il a déterminé les limites de ces politiques. Les politiques, c'est une chose qui est ICANN en général. Pourquoi est-ce que le board a demandé pour qu'il y ait un groupe de travail cross-communautaire pour que la question soit adressée au niveau de ICANN en général? Est-ce que vous voulez en parler? Evan a pris la tête de la discussion. Oui, Evan Durman, nous avons une très bonne séance sur ce sujet et vous aviez la représentation à travers toute la communauté d'ailleurs assise autour de la table. Tout le monde a dit oui, c'est quelque chose qui doit être vérifié, quelque chose que nous devons faire ensemble. Et ce que nous avons maintenant, nous avons un groupe de travail GNSO et tous les autres dans leur silo qui font face à quelque chose qui doit être fait vraiment de façon cross-communautaire. La question importante ici, c'est que ce n'est pas quelque chose que le board doit résoudre, mais je pense qu'il y a un rôle de leader que le bureau d'administration doit avoir pour que vous, entre vous, puissiez régler la chose. Ne laissez pas les autres prendre la tête, la main et résoudre cela pour vous. À Durban, nous en avons parlé, nous sommes allés d'ailleurs de l'avant avec cela et cela a produit des résultats. À l'époque, nous avons levé, donc fait une étincelle, levé le sujet, et nous avons dit que c'est quelque chose que la CAN ne devrait pas faire seule. Ce doit être fait à travers toute la communauté. Il faut faire tous les AC, les SOs, il faut leur dire vous faites cela au lieu de laisser les silos faire cela chacun de leur côté. Sébastien, oui, Mac Evan. Ray Plesak, Ray, Fadi, oh, Fadi Shehade. Je ne sais pas comment, quand on fait quelque chose ascendant, de façon ascendante, vous vous plaignez. Maintenant, vous nous demandez de faire quelque chose descendant. Oh, mais mon Dieu, allez dans leur meeting, dans leur réunion, et puis dites-leur, laissez-nous entrer. À Bali, la société civile avait les propres meetings, propres réunions, et c'était fermé. Et moi, je suis, avec Jean, je suis rentrée. Je dis, écoutez, nous sommes une seule communauté. Si vous pensez que c'est un gros problème pour vous, nous avons rencontré avec les leaders de SO, SI, et AC, par exemple, dites-leur, invitez-vous, et dites, c'est un problème pour chacun d'entre nous. Nous devrions travailler, nous devrions des activistes communautaires croisés. Nous ne pouvons pas tous venir au board et à moi, venir vers moi. Mais quand j'agis, vous me dites que je travaille du haut en bas et pas du bas en haut. Je ne sais pas ce que vous voulez. Sébastien, Olivier Crépin-Leblanc, pardon, le Geneso est ouvert. Ce n'est pas un problème de savoir ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert. Fadi, oui, exposez-les, dites-leur publiquement, vous ne faites pas la bonne chose. Ne venez pas me voir, moi, nous sommes une communauté. Si chacun d'entre vous dans cette famille, si tout le monde allait voir le board, le bureau pour résoudre quelque chose. Franchement, je sais que certains des membres de mon bureau, je n'aime pas mardi parce que nous devons faire, on vous fait face et puis après c'est le prochain groupe qui rentre et le prochain groupe, c'est silo. Restez avec nous, l'autre groupe arrive, dites-leur, et moi je serai là pour vous soutenir. Olivier, nous devons maintenant passer à la prochaine, j'ai Bertrand, Georges. Oui, Ray Ponzac, en premier. Ray Ponzac, je suis peut-être un vieux comme Georges, mais je ne suis pas Georges. J'ai vraiment un gros problème avec le langage que l'on utilise ici, la communauté entière de ICANN. Vous parlez d'un problème GNSO. Je veux savoir quelles sont les politiques vis-à-vis des implémentations de politiques. Quelle est la différence? Où est le problème? On parle d'une question qui a été soulevée à l'intérieur, en interne du GNSO, et vous mettez ça dans le cadre du GNSO. Quel est le problème des politiques vis-à-vis des implémentations au sein du CCNSO? Si on parle de la communauté en entier, on doit parler de la communauté en entier. Si vous voulez des groupes de travail qui travaillent sur les relations communautaires croisées, c'est pas une chose à discuter ici. Ça doit être fait dans une autre réunion. Si on parle de la question GNSO, c'est ce qui doit se passer. Nous allons le dire de cette façon. Et ne disons pas que c'est un problème de la communauté en général. Je voudrais entendre cela spécifiquement. De quoi parle-t-on? J'aimerais entendre cela. Olivier, Evan Leibovitch, oui, on devrait rejouer la séance qui a été faite à Durban. Ce n'est pas GNSO à la table. Peut-être vous focalisez sur les RAR, oui, peut-être n'ont-ils rien à voir avec ça, mais tous les autres groupes ont à voir. Tout le monde a un intérêt dans cela. Quand on a eu cette séance, cette réunion à Durban, le GNSO n'était pas les seuls à parler. Nous avions d'autres communautés qui disaient qu'ils avaient des intérêts là-dedans. Donc, vous nous dites ne focalisez pas seulement sur le RAR, ils n'ont peut-être fait pas une petite partie de cela, mais tous les autres parties de la communauté Je ne focalise pas sur les RAR, je focalise sur le terme la communauté haïtienne en général. Vous avez des gens qui ont des problèmes avec le GNE, vous avez des gens d'autres parties de la communauté qui ont des problèmes avec les problèmes GNSO. J'ai problèmes avec politique vis-à-vis des mises en place politiques. De la perspective de CCNSO, j'ai des gens qui sont certainement concernés, inquiets à ce sujet. Ce n'est pas un problème de la communauté en général, pour dire, c'est une question GNSO. Il faut adresser cela dans ce contexte. Et si on fait rentrer d'autres gens, d'autres parties de la communauté là-dedans, c'est bien. Mais si vous voulez encadrer la discussion en allant de l'avant, nous devons préciser, en rentrant dans d'autres formats de politique, en dehors de ce sujet sur lequel vous travaillez en ce moment. Il y a quelques semaines, Monsieur Müller a été élu comme conseil Aaron. Le conseil Aaron est l'unité qui s'occupe des politiques à l'intérieur des registres, des opérateurs de registres régionaux. Si vous voulez qu'il y ait une réaction multipartite ascendante, c'est le genre de choses qui doit se faire. Si je suis là, je dis mettez votre pied sur la porte, rentrez dans la porte, c'est que vous avez c'est un processus ouvert. Allez-y, participez et si nous allons faire cette chose-là de façon ascendante, faisons-le de cette façon. Entrez dans la salle. Moi, je rentrerai avec vous, Evan, et commençons les choses de la bonne façon. Je ne vais pas le faire en tant que membre du board, je vais le faire en tant que personne, individuellement. Olivier, oui, nous allons retourner à la file d'attente. Bertrand de la Chapelle. Bertrand de la Chapelle, il y a un débat qui dure depuis longtemps sur le développement, les processus de développement de politique, lorsqu'elle a à voir avec les G. Est-ce que c'est seulement une question GNSO ou est-ce que c'est des cas où les politiques devraient être une discussion de la communauté en général? Moi, j'ai toujours cru que si nous avions conçu ce programme en communauté croisée, ça aurait pris une forme complètement différente au départ. Nous n'avons pas cet instrument en ce moment. Mais quand nous faisons face donc avec les politiques vis-à-vis des implémentations, des mises en place, la façon naturelle, c'est de le faire à travers un PDP ou dans le groupe de travail, dans le GNSO. Je suis complètement d'accord avec prendre part à cela. Je dirais pas ça comme quelque chose, nous allons rentrer dans la salle. Je dis que cela devrait sont supposés être ouverts, ces groupes devraient être ouverts. C'est un sujet qui me concerne. Ceci étant dit, je suis d'accord qu'il y a un préjudice sur comment la question a été posée au départ. Quand cela commence avec le GNSO, disons, au départ, je pense que c'est un problème plus important. Les responsabilités du GNSO en elles-mêmes contre les politiques qui sont plus élargies, plus général. C'est un problème beaucoup plus grand, plus important. La responsabilité du GNSO, surtout sur la gérance de choses jour par jour. Par exemple, les politiques, c'est un bon exemple. Les politiques de transfert interregistraires sont un exemple parfait. Il y a une structure de l'équilibre des responsabilités entre le personnel et la communauté et le bureau d'administration. Je suis d'accord que cela inclut les autres acteurs qui n'ont peut-être pas un intérêt, mais qu'il doit être inclus dans la discussion. Le format n'est pas fait de façon égale. Aujourd'hui, on dit qu'il faut participer au groupe de travail, mais à mon opinion, est-ce que ça doit être à travers la communauté croisée ou sur une base plus élargie? Il n'y a pas, en ce moment, nous savons très bien que le GAC ne va jamais entrer dans la discussion. Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit les concerner? Olivier, oui. Georges Sadowski. Georges Sadowski, oui, je suis d'accord avec Bertrand de la Chapelle a dit, mais je voudrais le dire d'une façon différente. Les statuts de ICANN assignent les responsabilités au GNSO. Et je commence à croire que c'est vraiment un artefact historique. Ce qu'était ICANN, est-ce que ce paysage de l'ICANN était en 2001? Donc, je veux dire, c'est quelque chose de plus un problème, beaucoup plus un problème maintenant. Nous devons considérer le rééquilibration des responsabilités, des développements des politiques à travers les organisations différentes au sein de l'ICANN.
Nous passons maintenant le micro à Holly Reich. Holly, au micro. En tant qu'ancienne présidente de l'équipe de rédaction des politiques de l'implémentation, ce que je peux vous dire, c'est que la discussion que nous avons eue, c'était que le problème, c'est en termes de politique, qu'il y a une possibilité de contribution générale de la politique. Une fois qu'elle est mise en place, elle est fermée à clé. Le danger, c'est qu'en fait, on peut éliminer tout un tas de personnes par nom, sur la base de leur nom. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit être reflété dans la charte. Il est moins important de définir les termes que de dire quand est-il important que tout le monde puisse avoir son mot à dire et quand est-ce que quelque chose est simplement relatif à l'implémentation, à la mise en application. Je ne sais pas exactement si c'est ce qui va se passer dans le cadre du travail d'un comité GNSO, mais donc au départ, le processus n'était pas ouvert. Et donc, c'est une question de définition. Est-ce qu'on élimine certaines personnes ou non? Merci, Holly, dit Olivier Crépin. Et donc, pour encadrer ce que vient de dire Holly, ALAC est membre. Holly est membre ALAC et je crois que la discussion, c'était surtout l'encadrement du sujet, les biais. Un bon exemple, c'est donc le groupe de soutien aux candidats qui était un groupe GNSO. Donc maintenant, nous avons Sherin Chalabi. À mon avis, et ça, c'est mon avis, mais je pense qu'on se focalise sur le mauvais problème. La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il y a une étape qui manque dans tous les systèmes ICANN, dans tous les processus ICANN, et c'est l'étape de la conception. En général, la politique après, c'est d'abord donc la conception et après la mise en application. Personne ne parle de la conception. Qui possède la conception et qui signe? Et à ce moment-là, la mise en application, on n'a plus ce problème. Les politiques sont élaborées à un niveau tellement élevé. Ensuite, on passe à la mise en application et la personne qui a mis en place la politique dit « mais c'est pas du tout ce qu'on voulait dire en termes de mise en application ». Il manque une étape, l'étape de conception. Et personne n'approuve la conception. Pour moi, nous nous focalisons sur la mauvaise question. Si on se focalise sur la conception, qui s'occupe de ça et qui signe? Merci, dit Olivier Crépin-Leblond. Steve, vous m'avez dit qu'il fallait absolument qu'on soit fidèle à notre timing. Il nous reste 5 minutes. Réponse, nous n'avons pas le temps, dit Fadi. Olivier Crépin-Leblond au micro. Alors, encore une question en termes de visa et les problèmes pour certaines des personnes qui viennent du monde entier. Dijani, nous avons simplement 5 minutes, donc il faudrait faire un petit résumé. Merci Olivier, dit Dijani. Comme vous le savez, à Toronto, nous avons eu un problème de visa et certaines des communautés, par exemple africaines, n'ont pas pu se rendre à Toronto, alors que pour certaines, elles étaient membres du communauté de nomination. Et vous savez l'importance qu'il y a à ce que le comité se retrouve avec tous ses membres. Malheureusement, nous pensions que c'était une question de pays du Nord. Et donc, nous avons fait beaucoup de plaidoyers pour solutionner ce genre de choses. Malheureusement, Ici à Buenos Aires, nous avons également eu certaines personnes, membres de notre communauté, qui n'ont pas pu venir pour des questions de visa. Il nous faut absolument résoudre ce problème à sa base, à son point d'origine. Nous sommes en train de concevoir une stratégie pour nos réunions et je crois que cette question des visas doit faire partie des priorités, doit être la priorité. Pour les réunions à venir, je demande à ICANN de s'assurer que le pays qui sera sélectionné pour la réunion est un gouvernement qui soit d'accord, qui approuve des exceptions particulières pour que les gens puissent se rendre à ces réunions. Ce n'est pas très compliqué pour les personnes qui n'ont pas d'ambassade ou de consulat dans leur pays respectif, eh bien, ils devraient pouvoir obtenir leur visa à l'arrivée. Alors, je vais répondre à cette question, dit Steve, et puis je conclurai la réunion. Je suis tout à fait d'accord, je pense que Fadi est d'accord également. Je ne sais pas quels sont les faits précis, mais pour moi, c'est quelque chose de très frustrant. Et c'est vraiment quelque chose qui me met très mal à l'aise. Il y a un certain nombre de mécanismes pour faire le suivi de ce problème, et j'essaie de prêter attention à certaines choses. Alors, Karim, est-ce qu'on pourrait mettre ceci sur la liste de mes choses à faire? J'aimerais savoir pourquoi nous avons ce problème et pourquoi c'est quelque chose qui n'arrête pas de se produire. Nous ne pouvons bien sûr pas émettre de promesses par rapport aux résultats, puisque nous sommes à la merci des différents gouvernements impliqués, mais étant donné qu'il existe des moyens d'amélioration, par exemple la notification précoce, des accords, etc., des accords préalables, je crois qu'il faut absolument faire quelque chose. Il nous faut absolument étudier la question, faire tout notre possible. S'il y a des problèmes spécifiques, il faut absolument que nous les connaissions à l'avance, plutôt que d'avoir des gens qui arrivent jusqu'à l'aéroport et qui restent coincés et qui n'ont pas leur visa à la dernière minute. Pour moi, un visa à la dernière minute, c'est pas génial. Ce n'est pas la bonne chose, ni pour la personne, ni pour le gouvernement en question. Donc, en tout cas, moi, je m'engage à collecter des informations pour avoir des informations avant que les problèmes ne se présentent. Et on fera tout notre possible dans les délais. Alors, nous avons terminé notre réunion. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Olga? Olga, au micro. Je me dépêche, parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est une question très frustrante. J'ai essayé d'analyser un petit peu la question. Et en fait, il y a un moyen relativement simple de solutionner ce problème à l'avenir, quelque chose qui peut en fait être étudié avec ALAC. Et je sais qu'il y a des despotes d'immigration illégale qui cherchent les conférences, qui vont utiliser ces moyens pour créer des problèmes au consulat. Les consulats agissent de manière très rapide par rapport à ça, et ça, en soi, crée ce genre de problème pour nous. Donc, il existe un moyen. Lorsqu'on prépare une conférence, il faut faire un certain travail avec les ministères étrangers pour que, avant la conférence, le ministère étranger envoie un avis à ses différents consulats. Il souligne le fait que c'est une conférence réelle, valide. Et nous allons faire tous les efforts possibles pour répondre de manière positive aux candidats. Donc, en fait, il y a quelque chose de très simple à faire. Nous allons pouvoir travailler avec ALAC, avec les personnes qui organisent nos conférences, pour que ces notifications soient envoyées dans les consulats de manière adéquate, dans des temps adéquats. Fadi au micro. Le problème est plus large. Nous avons déjà effectué ceci, mais j'assume la responsabilité de ce problème. Je vais travailler avec Steve. Nous ferons des rapports. Je sais que nous pouvons en faire davantage là-dessus. Nous pouvons par exemple émettre des invitations très spécifiques, coordonnées, avec pour les gens donc qui ont des problèmes dans les pays qui nous accueillent. Cela nécessite énormément de travail, mais ça en vaut la peine. Moi, j'ai collecté les noms des personnes qui n'ont pas pu venir et je vais leur téléphoner personnellement. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs. Steve, le problème est compliqué et je crois que nous en sommes conscients, mais comme Fadi le disait, c'est quand même un problème très complexe. Donc merci à tous. Comme nous vous l'avions promis, nous avons plongé tout de suite dans le vif du sujet. Nous ne sommes pas ennuyés et je crois qu'encore une fois, ce sera une séance dont on se souviendra. Merci, dit Olivier. Tout sera mis par écrit. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui sera mis par écrit. Merci.